BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons en Bourgogne, à Joigny, chez Domanis, le principal bailleur social de Lyon. Domanis veut faire basculer le secteur du logement dans la nouvelle donne climatique, mais les défis à relever sont considérables. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons finance en deuxième partie d'émission. Comment redonner aux investisseurs l'envie de climat? Comment vraiment mettre la finance au service de la transformation de l'économie? On en parlera avec deux dirigeants du secteur qui ont bousculé leur modèle d'affaires, Laurence Méhaignery de Citizen Capital et Marc Vomser de la banque Vomser Frères. Et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc à Joigny, en Bourgogne, chez Domanis, le principal bailleur social de Lyon. L'entreprise a complètement repensé son modèle d'affaires et celui de son secteur, le logement. Mais vous allez voir que le passage à l'acte est un chantier sans précédent. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes de Domanis.
Aujourd'hui, je vous emmène dans Lyon, chez Domanis, un bailleur social qui se retrouve au cœur d'un enjeu majeur. Comment réinventer le logement à l'heure du changement climatique? Décarboner le parc immobilier, embarquer tout l'écosystème du bâtiment et changer les habitudes aussi des locataires. Voilà quelques-uns des défis qui se dressent devant Domanis. Et justement, on va en parler avec leurs équipes.
Quand on est sur les passoires énergétiques, les sujets sont l'isolation des logements, la ventilation des logements, la fuite d'air, donc le remplacement des menuiseries, pour limiter les consommations énergétiques. Et quand on est dans la limite des consommations énergétiques, ce qui va être intéressant de regarder, c'est la source d'énergie qu'on va mettre sur nos bâtiments et le volume d'énergie qu'on va délivrer. Et la bonne solution aujourd'hui, c'est pas une énergie, c'est plusieurs, c'est le mix énergétique. Et sur l'exemple des bâtiments qui sont derrière nous, on est à Joigny, dans Lyon, on est en train de travailler justement sur cette approche d'isolation, de ventilation, de limitation de la fuite d'air. On est sur un système de chauffage carboné, qui est du gaz naturel. On va limiter la consommation de gaz et le volume de gaz qui va être nécessaire pour chauffer ces logements. Et dans la mesure où on est sur un système collectif, on est en train de réfléchir avec les élus du territoire quand on pourra le mettre en place à une possibilité de muter vers une autre source d'énergie qui pourrait être une unité biomasse, à savoir un réseau de chaleur urbaine. Donc c'est pas complètement avancé totalement aujourd'hui dans la réflexion, mais on est en train de travailler sur ce sujet-là.
Bonjour Karine Lascols.
Bonjour.
Merci de nous avoir accueillis sur le terrain avec vos équipes dans Lyon, dans l'un de vos chantiers. Vous êtes la directrice générale de Domanis et vous nous avez rejoint en plateau pour qu'on vous aide à avancer sur ces défis, à commencer par les passoires thermiques. Et c'est Maximilien Rouet à vos côtés de Mazars qui va s'en occuper. Bonjour Maximilien.
Bonjour Thomas.
Merci d'être là. On rentre dans le vif du sujet. On voit bien que c'est un défi compliqué, qu'il n'y a pas de solution toute prête, clé en main, pour sortir des passoires thermiques. Comment est-ce que vous pouvez aider Karine à avancer là-dessus?
Je dirais, déjà, elle a pris le dossier en main, c'est important. On a eu un directeur du patrimoine très engagé avec un bémol sur le confort d'hiver. Le confort d'hiver, c'est avoir chaud quand il fait froid l'hiver. Surtout, ne pas oublier quand on isole, parce qu'on n'isole pas tous les ans, on isole peut-être tous les 30 ans, ne pas oublier le confort d'été. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, avec le changement climatique, vers de plus en plus de canicules, et ces phénomènes caniculaires, d'autant plus dans des logements en béton, peuvent être très difficiles à vivre. Donc il faut, quand on rénove, avoir un pied dans le confort d'hiver, un pied donc dans le chauffage, et un pied dans le confort d'été, et ne pas oublier l'un, sinon ça va avoir des conséquences sur la résilience des locataires, sur la capacité des locataires à pouvoir encore habiter leur logement demain, et donc certainement leur solvabilité.
Ouais. Karine Lascols, ce sujet de sortir du gaz, puisque c'est ça dont on parle, on pensait entre guillemets que c'était qu'une question d'argent, mais on voit bien que c'est aussi que techniquement c'est quand même plus compliqué que ce qui n'y paraît. Il y a cette formule la semaine dernière du président qui disait plug baby plug, il y a un réseau prêt, il y a qu'à se raccorder à l'électricité, c'est quand même plus compliqué que ça se fait pas en claquant des doigts.
Non, ça se fait pas en claquant des doigts, d'autant plus que nous 70% de nos logements sont chauffés au gaz aujourd'hui, c'était l'énergie miracle à l'époque d'avoir un chauffage collectif gaz. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cet enjeu gaz parce que ça impute notre bilan carbone, 30 000 tonnes par an quand même, et principalement lié à l'utilisation des logements et au chauffage. Donc effectivement, on a cet enjeu-là, mais il n'y a pas de solution effectivement toute faite. Ouais. Il y a des réseaux qui sont dans les bâtiments, donc on ne peut pas adapter n'importe quel type de chauffage. Mmh. Et alors l'isolation est le premier point avant de se poser la question du chauffage, c'est comment on isole. Et après, on se pose la question du dimensionnement du chauffage.
Ouais.
Mais L'enjeu, c'est aujourd'hui pas de solution toute faite, ouais. Mix énergétique, mais lequel ? Donc on adapte en fonction.
Ouais, c'est ça, faire du sur-mesure, c'est ça qui est compliqué sur cette question-là. On retourne sur place avec Philippine, parce que donc il y a ce défi qui déjà en soi est massif de sortir des passoires thermiques, mais vous voulez aller au-delà de ça, vraiment faire basculer le modèle d'affaires à la fois de votre entreprise et de votre secteur. On voit ça avec Philippine.
Deuxième défi, changer les pratiques dans le secteur. Domanis ne peut pas avancer seul. Partenaires industriels, collectivités ou encore investisseurs, tout le monde en fait doit se mobiliser et repenser son modèle pour réduire son empreinte carbone. Mais construire plus vert, c'est un pari qui implique aussi des coûts, des risques et la remise en question des habitudes de chacun.
On a une stratégie relativement ambitieuse qui s'appelle Domanis Régénération 2030. C'est comment passer d'une économie extractive à une économie régénérative. Et ça, on n'y arrivera pas tout seul. Donc on a vraiment un enjeu d'embarquer à la fois nos collaborateurs, les entreprises partenaires, les financeurs et les collectivités aussi avec qui on travaille. Ça c'est un vrai défi, vraiment, parce que même s'il y a des entreprises qui sont nos principaux fournisseurs, qui sont déjà engagés, qui ont commencé à mettre en place des choses, il y a encore une grosse marge sur ce sujet-là. Et il faut vraiment qu'on puisse échanger pour convaincre que c'est vers ce modèle qu'il faut aller. On a aussi des enjeux de trouver les financements qui vont bien pour accompagner ces projets ambitieux. Et ça, c'est une vraie quête pour le coup, puisque il y a beaucoup de produits, de partenaires, de fondations, de mécénats, des choses qui sont mises en place et on n'a pas forcément cette connaissance. Voilà, il faut vraiment engager tout un travail de relationnel, de communication sur notre projet pour aller chercher ces moyens de réaliser notre projet d'entreprise.
Ça tombe très bien, hasard du calendrier. Juste après vous dans l'émission, je reçois un banquier et un investisseur. Donc vous pourrez parler et faire connaissance. En attendant, Maximilien, au-delà du financement, même si évidemment c'est un sujet crucial, ce sujet d'embarquer les parties prenantes, on en parle très souvent dans BFM Climat. Comment est-ce que Karine, qui a un temps d'avance, on comprend bien, peut trouver les mots, les arguments pour convaincre les autres de la suivre?
Alors le vrai sujet de la régénération, c'est effectivement cesser d'être seul, cesser de considérer le bâtiment comme étant un poste de coût, de consommation, d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, et le voir comme étant un actif à valoriser, un actif à valoriser par ses matières, par ses ressources, par son emprise territoriale. Chaque mètre carré qui reçoit du soleil, finalement, pourrait le valoriser. Et un bâtiment, c'est un cube avec beaucoup d'exposition au vent et au soleil. Donc, potentiellement, beaucoup de production d'énergie avec, par exemple, les énergies renouvelables. Donc, comment on fait? C'est certainement avec un partage de la valeur créée. Donc, le premier sujet, c'est oui, il y a un bâtiment. Ce bâtiment peut créer de la valeur. Ça peut être par partager les ressources si on a des panneaux solaires, partager d'autres choses, on n'a pas le temps de développer ici, mais on a bien une quinzaine aujourd'hui de points d'actifs qu'on peut partager avec les parties prenantes, et organiser la supply chain, organiser l'amont et l'aval, de telle sorte que ceux-ci soient collectivement intéressés à cette répartition de la valeur. Ouais. On est vraiment aux avant-postes, l'objectif étant de stocker du carbone et de ne plus en émettre, de produire de l'énergie, de dépolluer l'air, l'eau, le sol, et tout ça, techniquement, c'est possible, c'est la bonne nouvelle.
Bon, c'est ça qui est positif. Karine Lascols, quand vos partenaires, vous leur parlez régénératif, vous leur dites, faut revoir les modèles d'affaires, ça risque de coûter plus cher, de peser sur la rentabilité, est-ce qu'on vous regarde avec des gros yeux? Est-ce que les gens vous comprennent?
Alors, la plupart du temps, ils trouvent ça génial, cette ambition. Après, de là à passer à l'acte, et parfois, c'est compliqué. Alors, ce que je peux comprendre aussi, quand on a un problème de trésorerie dans son entreprise, on a du mal à regarder plus loin. Après, on voit quand même qu'on a des partenaires qui se mettent en place. On travaille, là, j'avais une canette dans la main dans la vidéo. C'est pas parce que j'avais soif, c'est parce que effectivement, on a essayé de travailler avec un partenaire qui s'appelle Miral, qui fait le parcours aussi de la CEC Bourgogne-Franche-Comté.
Convention d'entreprise pour le climat.
Voilà. Et qui s'est engagé à travailler sur la décarbonation et l'utilisation des déchets. Et là, pour vous dire, on a utilisé 6900 kilos de déchets, dont de l'aluminium recyclé, pour l'isolation de nos façades. Donc voilà, on voit qu'il y a des gens qui sont engagés, mais il y a encore du boulot.
Il y a encore du boulot, mais enfin, il y a quand même quelque chose là qui commence à se voir. On retourne une dernière fois sur le terrain, parce que donc là, le sujet, c'était d'embarquer votre écosystème, vos partenaires, mais il faut aussi embarquer les habitants, les premiers concernés, pour que la bascule ait vraiment lieu.
On arrive au dernier défi, celui de changer les usages des habitants eux-mêmes, économiser l'eau, l'énergie, privilégier les déplacements à pied ou en commun, louer plutôt qu'acheter, autant que réflexe que Domanis veut encourager dans ses résidences. Certaines expérimentations sont déjà lancées. L'idée, c'est de consommer moins, produire moins et donc émettre aussi moins de CO2. Un véritable changement de mode de vie pour les locataires.
Nous, on travaille sur un projet ambitieux d'un point de vue climatique, mais nos locataires
leurs problématiques à eux. C'est pas forcément la fin du monde, mais plutôt la fin du mois, puisque c'est des personnes à revenus modestes. Donc, comment on les embarque dans des changements de comportement, consommer moins, consommer mieux, différemment. Donc, on a tout un tas d'enjeux de sensibilisation auprès des locataires, essayer de leur montrer comment on règle l'énergie dans ces nouveaux bâtiments aussi isolés. Le fait, par exemple, d'aérer son logement régulièrement, ça fait pas partir la chaleur. Justement, ça remplace l'air et ça permet de mieux chauffer. C'est des petits réflexes comme ça du quotidien qu'on travaille aussi avec les enfants sur des ateliers d'éco-sensibilisation, puisque c'est souvent un bon vecteur pour faire changer les habitudes des parents. On a aussi, on teste des choses sur les modes de consommation. Là, on va bientôt tester un projet qui s'appelle les biens en commun. On fait appel à une start-up qui s'appelle les biens en commun sur l'économie du partage. Plutôt que chacun, par exemple, dans une résidence étudiante ait un aspirateur, cet aspirateur, il peut être loué pour 1, 2 euros au pied de l'immeuble et pouvoir être utilisé, partagé, réparé éventuellement. Et ce qui évite, on gagne de la place dans les petits appartements. Et d'un autre côté, on n'est pas obligé d'acheter du neuf à chaque fois. Donc, on est sur cette économie du partage.
Alors, Maximilien Damo, pour finir, là, on voit qu'on rentre carrément dans la vie des gens, dans leur quotidien. Comment faire pour leur donner envie de changer leurs habitudes sans passer pour un donneur de leçons ou quelqu'un qui leur fait la morale?
Je crois qu'il faut partager avec eux aussi la valeur. C'est-à-dire qu'il faut être dans une logique d'alignement. On peut imaginer ce que vous avez dit, Karine, partager des produits, des services, des machines, des outils, c'est certain. Il faut aussi rentrer dans ce que vous avez dit dès le début, la fin du mois. Et la fin du mois, c'est gagner quelques euros quand je fais quelque chose. Donc, on y arrivera quand, effectivement, on adressera les valeurs et quand on adressera le portefeuille. Donc, trouver une petite manière, et ça peut être sur des actions comme le coup de la perceuse ou aussi Internet. Qui n'a pas connu, en branchant sa borne Wi-Fi, le fait qu'on en avait 10 en haut et 10 en bas? Finalement, est-ce qu'il n'y en aurait pas une ou deux qui pourraient suffire et qu'on ferait une location partagée? Tout ça, c'est des nouveaux modèles qui sont testés un peu partout sur le globe et qui sont certainement une réponse importante à la fois aux objectifs de gaz à effet de serre et aux objectifs de fin de mois.
Le mot de la fin pour vous, Karine Lascol, ça vous paraît pertinent, ça? Qu'effectivement, à la fin des fins, ça doit payer quelque part, quoi, de changer ses habitudes? C'est le meilleur, la meilleure façon de faire avancer les gens.
Oui, et puis il faut leur effectivement, dans notre stratégie, on a deux piliers, régénération du vivant, régénération du lien social, échanger, faire comprendre les enjeux et donner envie surtout, parce que c'est pas effectivement en donnant des contraintes qu'on arrive à faire changer les habitudes. Donc voilà, OK avec le principe de partager la valeur et de donner envie de changer.
Bon, ça fait partie de la bascule du modèle d'affaires. Merci. Merci infiniment à tous les deux, Karine Lascol de Domanis. Merci d'être venu ce matin en plateau et Maximilien Rouet de Mazar. Allez, on a parlé logement, je vous le disais. Maintenant, on va parler du nerf de la guerre, de tous ces projets, de toutes ces bascules, le financement. Comment redonner aux investisseurs l'envie de climat? Comment vraiment mettre la finance au service de la transformation de l'économie? On en parle avec deux dirigeants du secteur qui ont bousculé leur modèle d'affaires pour l'adapter au climat. Bonjour Laurence Meignery.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans BFM Climat. Vous êtes la cofondatrice et présidente du fonds d'investissement Citizen Capital. On vous a déjà reçu sur BFM Business. Et avec vous, Marc Wormser. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de la banque Wormser Frères, qu'on connaît moins sur BFM Business. Je commence avec vous, justement. Vous dirigez une petite banque, sans vous faire offense, comparé aux géants qu'on connaît tous, familiale, indépendante. Déjà, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ces questions climatiques? Pourquoi vous êtes senti concerné? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez changé dans votre modèle d'affaires de banque privée?
Quand j'ai rejoint la banque il y a un peu moins de 15 ans, mon but c'était de donner du sens à ma carrière et aussi de pouvoir contribuer à l'utilité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les générations, puisque je suis la quatrième génération avec mon frère à la tête de la banque, ont eu l'intérêt général comme moteur avec les enjeux qui n'étaient pas les mêmes selon les générations. Notre enjeu à nous, dans notre époque, c'est les enjeux climatiques, c'est les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux. Et donc, c'est comme ça qu'on a voulu lancer cette démarche au sein de la banque. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille, qu'on a mis en place un certain nombre de choses progressivement jusqu'à structurer notre démarche de manière beaucoup plus forte ces dernières années.
Et alors concrètement, et après je vous poserai la même question Laurence, qu'est-ce qui a changé dans la pratique, dans votre activité?
Notre conviction, c'est de dire que pour avoir une démarche de finance durable qui soit crédible, il faut que notre démarche elle soit globale, holistique. Donc, c'est-à-dire qu'elle touche tous nos produits, tous nos services, et que toutes les exigences qu'on peut avoir vis-à-vis des entreprises ou des projets qu'on va financer, on se les applique à nous-mêmes. Donc, on a mis en place, notamment pour faire rapide, une analyse systématique des enjeux environnementaux et sociaux à chaque décision d'investissement ou de crédit. Ouais. Et on propose à tous nos clients qui le souhaitent une alternative pour aller plus loin sur les placements qui sont durables ou à impact.
Ah, intéressant. Et les clients vous suivent ?
Les clients
sont réceptifs ?
On travaille dessus. Pour l'instant, on n'est pas sur un raz-de-marée. Pour autant, il y a déjà des clients qui sont convaincus et qu'on a accompagnés.
Intéressant. Laurence Meignerez, donc même question pour vous. Vous, le point de départ est différent parce que d'emblée, vous êtes une société à impact avec votre fonds. Mais évidemment, enfin maintenant, le fonds a une quinzaine d'années, hein, si je ne dis pas de bêtises, lancé en 2008-2009. Qu'est-ce qui a changé récemment pour accélérer la bascule chez Citizen Capital?
Effectivement, ça fait 17 ans qu'on accompagne des entrepreneurs qui apportent des solutions, on va dire, aux grands défis sociaux ou environnementaux, donc santé, éducation, mais aussi économie circulaire, climat, etc. Aujourd'hui, les grands enjeux, c'est donner de la valeur à l'impact. C'est-à-dire qu'on a... On a passé 15 ans à construire des méthodologies de mesure d'impact, à construire des business plans impact avec les dirigeants. Et tout notre secteur, ça fait 10 ans qu'on participe à ça, mais un peu chacun dans notre coin. Et c'est l'émergence, en fait, de l'analyse non... Enfin, de ce qu'on pourrait appeler la comptabilité non financière.
Oui, extra-financière.
Ça a à peine 10 ans. Et ce que, je pense qu'un des changements, et pour moi, c'était un des grands enseignements de la CEC, c'est qu'on ne peut pas faire seul, en fait. Maintenant, il faut qu'on commence à se mettre ensemble, à coopérer pour aider les gens qui nous confient de l'argent, c'est-à-dire les grands investisseurs, à mieux intégrer l'impact dans leur propre pilotage et à rendre même des comptes à leurs propres clients, qui peuvent être les Français épargnants, etc.
Quels arguments vous trouvez? Parce qu'on voit bien qu'effectivement, vous voulez mettre en place un effet boule de neige, l'un et l'autre, mais comment vous trouvez les... Quels arguments sont les vôtres pour faire ça, et encore plus dans le contexte actuel où on voit bien un backlash climatique très fort. Comment vous faites pour percer le mur du son aujourd'hui et pour
entraîner? Alors moi, jusqu'à ce que je ne le vois pas personnellement, je considère qu'il... En tout cas, je ne l'ai pas encore vu à titre personnel, le backlash. Mais
tant mieux.
Je préfère... je suis évidemment inquiète.
Comment on embarque les autres? Vous avez une vision?
On sait quand même que... Pour prolonger cette idée de donner de la valeur à l'impact, on sait que l'analyse financière, enfin la comptabilité financière, capture pas aujourd'hui l'ensemble des enjeux qui sont importants pour nos investisseurs. Et il y a un certain nombre de risques et d'opportunités qu'ils ne peuvent pas identifier uniquement avec une analyse financière qui est aujourd'hui trop étroite. Donc, donner la capacité et travailler à ce qu'ils puissent avoir une comptabilité non financière qui se tienne, et ça va être encore sans doute 10 ans de travail, je pense que c'est le sens de l'histoire. Même si, effectivement, on fait face à quelques vents contraires, dans le fond, c'est le sens de l'histoire et même de l'économie. Je pense que l'économie a besoin d'un élargissement de son
Marc Lanzer, son analyse.
Sur ce point-là, au niveau des investisseurs privés, on a fait une étude client pour justement se rendre compte quelles étaient leurs appétences à ces sujets-là. Et en fait, on va dire qu'il y a trois catégories de clients. Il y a une petite partie de clients qui n'ont pas forcément conscience des enjeux environnementaux et sociaux. Donc là, il y a un travail de formation, d'éducation, de communication à faire.
Mais que vous faites-vous, par exemple?
Qu'on peut
faire. Vous considérez que c'est votre travail?
On participe, en tout cas, à l'effort général, à notre échelle. Il y a une deuxième partie de clients qui est la plus grande partie, qui sont des gens qui sont conscients des enjeux environnementaux et sociaux, qui peuvent agir à leur échelle personnelle, mais qui n'ont pas encore passé le pas pour agir sur leur épargne. Donc, ils n'ont pas forcément la conscience que leur épargne peut avoir un impact sur le changement climatique et sur la résolution des enjeux. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la communication, de la formation, des événements, mais aussi apporter une offre innovante. Ça, on pense que pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, avec des nouveaux produits, des nouvelles opportunités d'investissement qui peuvent allier non pas uniquement un couple rendement-risque, qui est la vision classique de l'investisseur, mais de passer d'une vision rendement-risque à une vision rendement-risque-impact, un triptyque important pour nous.
Ah ouais, très intéressant. Et là aussi, vous allez le faire avec votre méthodo à vous, vos indicateurs à vous, vous attendez quelque chose de partagé avec d'autres acteurs du secteur. Comment vous allez avancer là-dessus?
C'est hyper important, comme le disait Laurence, d'avoir une vision qui soit commune et partagée, de coopérer avec l'ensemble du système pour avoir, pour pouvoir répondre notamment à une des critiques qui est faite par rapport au greenwashing, c'est que chacun va avoir sa propre méthodologie personnelle. Donc il y a des langages communs qui existent. On parle souvent des objectifs de développement durable. Il y a des méthodologies de classification d'impact qui existent aussi, comme l'IMP et tout ça. Il faut essayer d'utiliser ces méthodologies communes, plus la CSRD avec la réglementation qui va nous permettre de fiabiliser l'ensemble des données.
À voir comment ça atterrit.
À voir comment ça atterrit. On est...
Mais bon, en tout cas, c'est lancé.
Exactement. Et donc, avec l'ensemble de cette coopération, et ça a été notamment le cas des travaux qu'on a réalisés ensemble à la Convention des entreprises pour le climat, c'est comme ça qu'on peut avancer aussi.
Laurence Meignery. Parce que allez-y, ouais.
Bah, je rejoins complètement ce que dit Marc, notamment sur cette approche rendement risque impact. Nous, on a rejoint une initiative qui s'appelle United for Impact, qui réunit 60 fonds dans quasiment tous les pays européens pour travailler sur une approche commune pour les investisseurs en particulier. Et on croit beaucoup dans la coopération avec notre secteur. Ensuite, je trouve qu'il y a un autre axe qui est un vrai enseignement récent pour nous, c'est que même dans l'impact, en fait, on a des enjeux de passer. On a beaucoup été dans comment on résout un problème isolé. Par exemple, typiquement, la seconde main, ça a un impact, ça évite d'acheter du neuf. En fait, vous voyez avec le temps un certain nombre de ce qu'on appelle d'effets rebonds.
Oui, tout à fait.
Qui peuvent être, par exemple, que finalement les gens s'équipent de plus en plus vite de nouveaux vêtements, de nouveaux smartphones, etc. Que ça assèche complètement les dons à Emmaüs et compagnie. Donc, il y a un certain nombre de très bonnes idées qui ont déjà beaucoup d'impact, mais qui, en fait, ne changent pas le système.
Oui, fondamentalement.
Et donc, ce qu'on appelle, effectivement, et ce qu'on a beaucoup, je pense, appris lors de notre expérience à la CEC, c'est comment on peut contribuer à des changements plus systémiques. Et alors nous, on s'est beaucoup impliqués, par exemple, dans l'agriculture récemment. On a un certain nombre de projets, par exemple... passer à une nourriture qui intègre plus les tout ce qui est insectes, qui peut être élevé par des agriculteurs. On fait des vaches d'insectes à la ferme, qui a énormément de vertus à beaucoup de niveaux. C'est un changement systémique dans l'alimentation. Dans la mobilité aussi, il y a des choses.
Il y a plein d'exemples à défricher sur lesquels il faut avancer. Ben, vous reviendrez tous les deux, parce qu'on est déjà arrivé au terme de cette séquence, vous reviendrez tous les deux nous en parler, voir comment les choses avancent cette année. Merci, en tout cas, d'ores et déjà, d'être venu dès ce début d'année sur le plateau de BFM Climat, Laurence Meignery de Citizen Capital et Marc Wamser pour la banque Wamser Frères. On accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
Directeur de l'AXA Climate School. Antoine, pour commencer aujourd'hui, vous nous parlez des tourbières, ces alliés naturels contre le réchauffement climatique, mais qui pourraient malheureusement se retourner contre nous.
Oui, quand on pense à ce qu'il va falloir préserver face au changement climatique, on pense souvent à la forêt tropicale, aux fleuves ou même aux mangroves, on pense un petit peu moins aux tourbières. Alors les tourbières, vous allez les voir en photo, c'est assez banal. Ce sont ces grandes zones végétales gorgées d'eau. Le fait est qu'elles stockent 600 milliards de tonnes de carbone dans le monde. C'est plus que l'ensemble des forêts de la planète, c'est à peu près 50 ans d'émissions humaines. Alors tant que ce carbone est stocké, eh ben, tout va bien. Mais si on assèche les tourbières, par exemple, pour en faire des terres agricoles, eh ben, évidemment, ça rejette des gaz à effet de serre. C'est le cas aujourd'hui, environ 2 milliards de tonnes de CO2 par an. Si les tourbières étaient un pays, ça serait le quatrième émetteur mondial. Alors, que faut-il faire? Eh bien, pas grand-chose en réalité. Il suffirait de laisser ces tourbières vivre. Le problème, c'est que seulement 18% d'entre elles sont dans des zones protégées. C'est à peu près 38% pour les forêts tropicales. On sait aussi ce qu'il faudrait protéger, puisque 80% des tourbières dans le monde sont dans seulement 10 pays. Et loin, loin devant les autres, on a le Canada et la Russie. Ce sont donc de véritables coffres-forts de carbone, des coffres-forts auxquels il ne faut surtout pas toucher.
Allez, on part maintenant en Norvège où vous nous parlez d'un nouveau type de chasseur de primes. On va appeler ça comme ça, les pêcheurs de saumon.
Oui, c'est une gigantesque chasse au saumon d'élevage qui est en cours en Norvège depuis que l'entreprise Mowi a laissé s'échapper 27 000 saumons d'un de ses grands filets d'élevage. Il faut avoir en tête que ces filets, ils peuvent contenir jusqu'à 100 000 poissons en temps normal. L'entreprise a donc offert une prime à tous les pêcheurs qui ramèneraient ces saumons sauvages échappés. 43 euros par saumon, si vous faites l'opération, c'est un peu plus d'un million d'euros pour l'entreprise. Alors, au-delà de la valeur marchande, il est très important de récupérer ces saumons d'élevage pour au moins trois raisons. La première, c'est qu'ils sont porteurs de maladies et notamment de poux à cause de la promiscuité dans les élevages. Ensuite, ils délogent les saumons sauvages parce qu'ils sont beaucoup plus gros et notamment de leur espace de ponte. Et puis finalement, ils se reproduisent avec ces saumons sauvages. Le problème, c'est que les poissons hybrides qui en naissent sont souvent stériles et ont une durée de vie très courte. Cela affaiblit l'espèce. Le ministre de l'Environnement norvégien, quelques jours avant l'accident, avait déclaré que les saumons sauvages en Norvège étaient face à une menace existentielle, mais il avait renoncé aussi à mettre plus de contraintes sur l'élevage qui grossit chaque année en Norvège.
Pour finir, Antoine, vous nous parlez du petit-déjeuner, le petit-déjeuner dont les prix sont en train d'exploser partout dans le monde et notamment aux États-Unis.
Oui, alors Thomas, vous pouvez imaginer la scène si vous êtes aux États-Unis et que vous vous rendez dans un diner américain où vous prenez un petit-déj typique de là-bas avec du café, du jus d'orange et puis un breakfast sandwich, donc au bacon et aux œufs. Eh bien, le prix de ce petit-déjeuner a doublé en 5 ans par rapport à l'année dernière. Il a pris 20% et la cause de cette inflation galopante, eh bien, elle est souvent environnementale. Les œufs d'abord, c'est sans doute le plus impressionnant. Le prix gros des œufs a doublé aux États-Unis en 3 mois. On vit une véritable egg crisis aux États-Unis. C'est à cause de la grippe aviaire. Le prix de la boîte de 6 dans le commerce a doublé, lui, en 1 an. Pour le café, même motif, même punition. Le prix a doublé en 1 an aussi. Là, c'est à cause de sécheresse et d'inondations dans les deux gros producteurs que sont le Vietnam et le Brésil. Et puis le jus d'orange, le prix a doublé, lui, en 5 ans. À nouveau, sécheresse au Brésil, mais aussi une maladie dite du dragon jaune qui touche les oranges. Le Brésil produit, il faut bien s'en rendre compte, plus de la moitié des oranges dans le monde. Et donc, évidemment, son impact sur le marché est massif. Résultat aux États-Unis, eh ben, tout le monde tire la langue, les restaurateurs comme les consommateurs. Dans les breakfast places, ces petits restaurants populaires où on ne sert que des petits déjeuners, les propriétaires disent que personne ne veut payer 25 dollars pour un petit déjeuner.
Merci, merci beaucoup Antoine et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à la Convention des entreprises pour le climat pour sa contribution à cette émission. À la semaine prochaine et d'ici là, on garde contact sur l'appli BFM Business, sur notre site internet, en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.